Jacques de Saint-Cernin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans la série d'entretiens du projet Imagine, ça s'appelle De l'intérieur et c'est parti. Frédéric de Saint-Cernin, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un parcours professionnel totalement atypique. Vous êtes un homme politique de droite, un très proche de Jacques Chirac, dont vous avez été le conseiller, et qui fera d'ailleurs de vous l'une des chevilles ouvrières de son parti, à l'époque le RPR, avant de vous faire rentrer au gouvernement en 2004 en tant que secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. Votre autre passion, c'est le football. Alors, dès 2006, vous décidez d'opérer un grand virage dans votre vie professionnelle pour prendre la présidence du Stade Rennais. Et en 2014, eh bien, vous surprenez à nouveau tout le monde avec une nouvelle orientation. Cette fois, c'est le secteur de l'humanitaire qui vous approche et vous devenez directeur général délégué de ACTED, une ONG française de solidarité internationale. ACTED, l'agence d'aide à la coopération technique et au développement, c'est tout bonnement la deuxième ONG française après Médecins sans frontières. Créée en 1993 avec peu de moyens et avec à sa tête une femme de conviction mais assez discrète, Marie-Pierre Calais. Je le précise parce que c'est assez rare qu'une ONG de dimension internationale soit créée par une femme. Donc Marie-Pierre Calais est toujours à sa tête, aux côtés de son cofondateur, un autre Frédéric, Frédéric Roussel. En un peu moins de 30 ans, c'est une croissance incroyable puisque ACTED œuvre aujourd'hui dans 37 pays du monde. Cette ONG manage 7000 employés pour venir en aide à environ 15 millions de personnes vulnérables, faire face à des situations d'urgence et soutenir des projets de réhabilitation et de développement. Et tout a commencé en Afghanistan. Alors pouvez-vous nous refaire un peu l'historique de cette success story, Frédéric de Saint-Cernin ?
D'abord, c'est la success story de deux personnes que vous avez citées, Marie-Pierre Calais et Frédéric Roussel, qui se sont rencontrés là-bas, entre l'Afghanistan et le Pakistan, à une période très troublée, au début des années 1990. Donc on se souvient de cette histoire très violente, très brutale, très conflictuelle de l'Afghanistan, avec successivement l'invasion par l'Union soviétique, puis des conflits armés interne à l'Afghanistan entre de multiples factions. Et c'est dans ce cadre-là que Frédéric Roussel travaillait pour les Nations Unies et que Marie-Pierre Calais est venue en tant qu'universitaire pour travailler sur ce qu'on appelle la ligne d'urance et cette délimitation qui est souvent discutée dans les zones tribales entre Afghanistan et Pakistan. Voilà, ils se sont rencontrés là-bas, tous les deux passionnés par ces territoires qui, pour nous, Français, sont des territoires très, très éloignés et pour nous, humanitaires, ne sont pas des destinations, des théâtres d'opérations habituels. Les acteurs humanitaires français, en général, ont commencé en Afrique, en particulier en Afrique francophone. Donc, le couple qui a fondé ACTED, Frédéric et Marie-Pierre, est pour ça un couple tout à fait original et iconoclaste. Et travaillant pour les Nations Unies à une période en particulier brutale par l'engagement des talibans au sein même de la capitale, Kaboul, il a fallu prendre des décisions. Et ces décisions, ça a été de créer une structure humanitaire financée au départ par les Nations Unies. C'est important de le dire parce que ça explique ce qu'on pourrait appeler le modèle économique. Le mot n'est pas très joli dans une ONG, mais on est une organisation tout à fait à part. Et donc, en travaillant à Kaboul dans ce contexte très, très violent de guerre civile avec la présence talibane au sein de Kaboul, il y a évidemment pour la société civile, pour les habitants de Kaboul, le drame absolu, un double drame, le drame de la faim et ensuite le drame du froid, parce qu'on se dit toujours que quand les pays sont éloignés, il y fait beau, pas du tout, il fait très froid en hiver à Kaboul. Et Fred et Marie-Pierre ont marqué...
C'est un pays très montagneux.
C'est un pays extrêmement montagneux. Et où il fait en effet très, très froid l'hiver, à peu près partout. Et ils ont créé deux opérations qui sont deux opérations fondatrices chez ACTED, que l'on apprend tous quand on intègre ACTED. D'abord, ils sont devenus quelque part boulangers. Ils ont organisé la fabrication et la distribution de pain pour une bonne partie des Kaboulis, qui encore une fois étaient vraiment confrontés à des situations dramatiques en termes d'insécurité alimentaire. Et le deuxième sujet, c'était de trouver les filons de charbon, on savait à peu près où ils se trouvaient, mais ensuite d'organiser la logistique pour pouvoir chauffer Kaboul. Et ça a été donc deux faits majeurs. Fred a poursuivi ce fait au Congo-Brazzaville. C'est une histoire qu'il raconte de manière très, très amusante parce que il est appelé par les Nations Unies qui lui disent, bon, ben, l'opération pain à Kaboul, il faudrait peut-être aussi songer à Brazzaville, où il y avait aussi une guerre civile. On est en 1997, il y a 23 ans, et ACTED avait été créé depuis 4 ans en Afghanistan. Et donc Fred, avec sa chapka ou ses bottes grand froid de Kabouli, traverse les continents et arrive à Brazzaville, où évidemment il y a un autre... C'est une autre température, au tempora homores, et il applique là encore cette mise en place très, très réussie à Kaboul, la mise en place de boulangeries à Brazzaville, et c'est lui qui s'occupe de l'accès à la nourriture, de cette nourriture de base qu'est le pain à Brazzaville, qui était là aussi confronté à une insécurité alimentaire chronique. Donc ce sont évidemment des faits marquants, majeurs, qui font que quand on intègre ACTED, on se rend compte qu'on n'est pas simplement dans une association à but non lucratif qui va faire ce qu'il peut pour aider les gens. C'est un travail de terrain très, très fort, très, très engagé, qui a marqué beaucoup l'histoire et la construction d'ACTED pour aujourd'hui être ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire d'abord un travail de terrain. Nous avons un siège qui est très, très petit à Paris. Nous avons à peu près 90 collaborateurs employés sur 7000 employés au total. Donc, nous travaillons vraiment sur le terrain. C'est là que nous avons notre force, notre compréhension des territoires, des communautés et notre capacité à mettre en œuvre les programmes. Et deuxièmement, pour ça que j'étais un petit peu long à vous raconter l'histoire d'ACTED, mais ce lien au ce qu'on appelle... aux bailleurs internationaux, aux bailleurs institutionnels internationaux, donc les Nations Unies, est constitutif de notre ADN. C'est la relation qu'a ACTED avec ces quelques dizaines de bailleurs, alors que d'autres acteurs humanitaires français ont quelques centaines de milliers de bailleurs qui sont des généreux donateurs privés individuels. Nous avons quelques dizaines, 110, 120, 130, bon an, mal an, bailleurs institutionnels internationaux qui financent la plupart de nos programmes. Donc l'histoire de l'Afghanistan est une histoire tout à fait originale dans l'histoire humanitaire française. Eu là-bas, encore une fois, de la part des créateurs d'ACTED, une volonté d'être tout à fait engagé, présent sur le terrain et faire des choses qui sont des choses décisives pour la population, les personnes les plus vulnérables, les chauffer, les nourrir. Et ensuite, cette relation très forte aux bailleurs institutionnels internationaux, qui est de fait une réalité très exigeante. Je pense que quand le HCR nous confie un programme pour soutenir des réfugiés au Bangladesh ou au Soudan du Sud, il attend beaucoup plus que si la même somme était additionnée par quelques milliers de généreux donateurs installés en Île-de-France ou plus généralement dans l'Hexagone et qui souhaiteraient qu'on fasse le mieux possible avec cet argent. Quand les grands bailleurs institutionnels internationaux nous confient des programmes, ils sont très exigeants, ils attendent des résultats qui sont extrêmement précis, ils sont sur le terrain souvent avec nous en termes de contrôle et la plupart de nos programmes sont audités puisqu'on parle d'argent public. Presque 100% du budget de ACTED, ce sont des fonds publics internationaux.
Peut-être juste quelques mots pour nous décrire un petit peu Marie-Pierre Calais, puisque comme vous l'avez dit, quelque part, c'était une toute jeune fille qui arrive comme ça en Afghanistan. Déjà, ça, c'est pas banal. Et donc, c'est quand même un parcours très étonnant.
C'est vrai, elle devait avoir à peu près 24 ans quand elle est arrivée là-bas. Elle s'est installée d'abord à Peshawar. Donc, on est presque à la frontière de l'Afghanistan. Il y a beaucoup d'acteurs humanitaires et d'autres acteurs de tout type dans cette période très troublée de l'Afghanistan et du Pakistan qui se sont installés à Peshawar. Et c'est donc une femme qui d'abord est très intellectuelle, qui est extrêmement exigeante, extrêmement rigoureuse et très tournée vers les autres. Quand on embrasse ce métier d'humanitaire, de fait, on doit s'intéresser à ce qui se passe ailleurs que dans son propre confort, dans sa propre sphère, et on doit être dans la compréhension des choses, dans l'empathie, et on doit être aussi dans la volonté de faire le mieux possible. Et donc, Marie-Pierre est une femme très rigoureuse, très travailleuse, elle l'était comme étudiante, et ensuite, quand elle décide de s'engager avec Frédéric dans la construction de cette ONG, elle prend toute la part, je dirais, la part la plus difficile, la plus délicate et certainement la plus ingrate dans une organisation humanitaire, c'est la partie administrative, les ressources humaines, la partie financière, les audits, le légal, toutes ces choses qui sont absolument indispensables dans une belle pyramide, dans une belle construction d'une ONG, parce qu'encore une fois, on a besoin de rigueur avec nos financements, tandis que Fred, lui, Frédéric Roussel, est dans la partie plus développement. Donc développement des programmes, vous les avez cités, ce sont des programmes d'urgence, de reconstruction, de réhabilitation, des programmes aussi de développement. Mais nous avons une particularité, une autre particularité chez ACTED, c'est que nous travaillons dans les pays où nous sommes enregistrés. On n'est pas obligatoirement dans une ingérence humanitaire. Pour nous, il est important que cet enregistrement nous permette de travailler dans les meilleures ou moins mauvaises conditions possibles pour atteindre les populations bénéficiaires, les populations qui sont souvent les plus vulnérables. Donc on travaille dans les pays où on est enregistré, c'est-à-dire qu'on est parfaitement identifié.
Ah, mais enregistré par qui ? Par les États ?
Par les États. Par les États. Voilà, on s'enregistre dans les États. Alors, quand on s'enregistre en Colombie pour travailler sur les réfugiés vénézuéliens, ça peut prendre que quelques semaines. Quand on s'enregistre dans certains autres pays, ça peut prendre quelques années. Et pour certains, où on a engagé cette volonté de nous enregistrer, la démarche est longue, elle prend quelques années. Et dans quelques cas, la démarche n'est toujours pas aboutie. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est important à partir du moment où nous avons des financements qui sont des financements publics internationaux. Nous, notre budget, c'est des budgets qui viennent des Nations Unies, des grandes agences des Nations Unies. Je vous citais le HCR pour les réfugiés, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui finance nos programmes de sécurité alimentaire. L'UNICEF soutient nos programmes de protection de l'enfance, d'éducation, etc. Le PNUD soutient des programmes de développement. Ça, c'est pour les agences des Nations Unies. Nous sommes très soutenus par l'Union européenne au travers des deux agences de l'Union européenne. Nous sommes soutenus par les coopérations d'État. En France, on connaît le centre de crise du Quai d'Orsay ou l'Agence française de développement. Donc, nous avons une relation très forte avec l'ensemble de ces bailleurs puisque d'une année à l'autre, nous reconduisons des programmes, nous en initions d'autres. Mais donc, nous devons avoir une relation très, très, très fidèle à ces bailleurs. Et de fait, ils attendent que le développement de nos programmes sur le terrain se passe dans les meilleures conditions possibles. Il est donc pour nous impensable qu'il y ait systématiquement des blocages des acteurs publics nationaux, qu'ils soient dans les capitales ou même les acteurs publics locaux. On ne peut pas se plaindre d'avoir été arrêté à checkpoint parce qu'on n'avait pas le bon papier ou le bon tampon. C'est à nous, en termes d'organisation et de logistique, d'atteindre les populations parce que les bailleurs nous font confiance et les 15 millions de bénéficiaires, 15-16 millions de bénéficiaires directs, ils nous attendent aussi. Donc, c'est important pour nous d'évacuer tous ces problèmes qui sont des problèmes politico-institutionnels. Et Frédéric Roussel, qui est donc le pendant dans l'organisation de Marie-Pierre, s'occupe de cette partie développement de nos programmes, relations avec les États, et moi je travaille avec lui sur cette organisation, donc plutôt sur cette partie développement, relations institutionnelles, relations extérieures. Et donc Marie-Pierre, elle, en haut de cette pyramide des 7000 employés d'ACTED, a cette immense responsabilité de tenir administrativement les ressources humaines, l'aspect financier de notre organisation, l'aspect légal, j'insiste beaucoup là-dessus, de notre organisation, ce qui est une très très lourde responsabilité.
Donc c'est une femme de tête. C'est très intéressant tout ce que vous nous dites là, Frédéric, et vraiment merci.
Une femme de tête, discrète, mais qui sait ce qu'elle veut, qui est extrêmement organisée et extrêmement travailleuse. On a besoin d'être organisé parce que une vie d'humanitaire, c'est une vie d'impondérable, d'imprévu. Et donc, il faut être en capacité de trouver des solutions en permanence. On a besoin d'être très souple, très agile. Les choses ne sont pas écrites. On voit aujourd'hui avec le coronavirus, on se dit, tiens, mais est-ce qu'on avait suffisamment de masques ? Non. Ah, mais est-ce qu'on avait des tests ? Non, etc., etc. Mais nous, c'est notre quotidien, coronavirus ou pas coronavirus. Dans certains pays où on a des problèmes de développement, on est relativement tranquille, ce sont des programmes qui sont plus longs, plus aboutis dans notre travail, mais on a des programmes d'urgence dans des zones de conflits armés, des zones de violence systémique, des zones de désastres climatiques très, très régulier. Donc, on a besoin en effet de cette grande élasticité, de cette grande souplesse. Et pour l'acquérir, il faut qu'au sommet, on soit aussi très, très organisé, bien évidemment.
Alors, on va continuer ensemble de creuser ce quotidien donc, des humanitaires. Alors, évidemment, la crise du coronavirus est venue dans ce jeu de quilles, est venue complètement transformer les choses. Et donc, essayons de voir ce que ça change, le fait de se retrouver au milieu de cette période de pandémie. C'est vrai que tout est allé très vite et j'imagine que cela a exigé de vous et de vos équipes une très grande réactivité. Donc, pouvez-vous nous raconter, Frédéric de Saint-Sernin, ce que la crise du coronavirus vous a obligé à changer dans vos modes d'organisation?
D'abord, nous l'avons anticipé quelques jours avant. Nous avons organisé le télétravail, aussi bien du siège à Paris que dans les 37 pays où nous travaillons. Donc, partout où on a pu faire du télétravail, on a demandé à nos équipes de s'organiser en tant que telles pour ne pas être confrontées justement à la situation de promiscuité. Donc, ce télétravail est quelque chose qui nous a permis d'avoir une organisation beaucoup plus souple et beaucoup plus pérenne sur la durée. Deuxièmement, on a cherché à limiter les contacts, et c'est vrai que c'est pas facile. Donc, selon la nature de nos programmes, limiter nos contacts, ça veut dire quoi? Quand on est sur des distributions, par exemple, distribution de kits alimentaires, des distributions de kits d'hygiène, nous avons cherché à additionner les centres de distribution pour éviter qu'il y ait trop de monde sur le même point de distribution. Nous avons prévenu les populations bénéficiaires que nous distribuerions différemment. Nous avons organisé les queues de ces distributions partout où nous avons mis en place cette relation entre nos employés et les bénéficiaires. Nous avons mis en place des points d'eau, des points de lavage des mains en expliquant à la population pourquoi est-ce qu'on travaillait de cette manière. Donc, c'était pour nous quelque chose de très important. Et puis, on est passé aussi dans une autre méthode de travail. On a pas mal de programmes de ce qu'on appelle de cash transfer, de transfert d'argent qui permet aux populations bénéficiaires, avec cet argent, de pouvoir en disposer. Alors, soit pour des obligations, alimentaires ou d'autres choses à faire. Et ce cash transfer passe quelquefois par de l'argent liquide, ou quelquefois par des vouchers. Vous voyez, dans les camps, on distribue ces vouchers. On est passé, comme on a pu le faire le plus possible, dans ce qu'on appelle du mobile banking, du transfert d'argent par téléphone, parce que ces populations sont vulnérables, mais beaucoup de ces gens bénéficiaires ont un téléphone portable. Et transférer l'argent de cette manière, en France, ça paraît peut-être un petit peu bizarre ce que je dis pour ceux qui vont nous entendre, mais c'est quelque chose qui est assez facile, en particulier en Afrique. En Afrique, où il y a relativement pas peu de cartes bleues, on est facilement passé des moyens de paiement en liquide aux moyens de paiement par système téléphonique, par mobile banking. Ça évite, là encore une fois, le lien direct entre les populations. On a mis en place toutes sortes de programmes directement coronavirus. On n'est pas simplement un prestataire de services humanitaires qui fait ce qu'on nous dit de faire. On peut être aussi en réflexion qui nous permet d'être beaucoup plus constructif. On a par exemple, on fabrique des masques. Aujourd'hui, on est le premier fabricant de masques en Afghanistan. En Afghanistan, vous avez du coton. C'est une matière première qui existe en Afghanistan. Il y a du coton. Et donc, on a commencé, grâce à nos centres de formation professionnelle, à faire travailler les équipes sur des masques. Ça se passait plutôt dans le nord de l'Afghanistan. Et puis ensuite, on a décidé, et là, on en était il y a une quinzaine de jours, à 100 000 par semaine. Mais on passe depuis hier, c'est donc tout récent, à un volume beaucoup plus important, puisqu'on va passer à 1 million de masques par semaine avec la mise en place d'une organisation sur Kaboul, de travail de couture sur Kaboul. Donc, centre de formation professionnelle, mais aussi à domicile, des gens à qui on fournit le matériel. En Afghanistan, les gens savent coudre, ce sont les rois du tapis, donc on a l'habitude et de la matière première et de la façon. Et donc, des gens chez eux sont en train de coudre des masques, donc, et au point, comme je vous le dis, que nous devenons le premier fabricant de masques du pays. Donc, on n'est pas simplement là à attendre qu'on nous donne des masques pour faire en sorte que, etc. Nous-mêmes, nous fabriquons des masques dans en Cisjordanie à Gaza ou au Yémen, nous équipons des centres de santé, de matériel à caractère sanitaire pour permettre de fonctionner. Au Sri Lanka, quand je vous disais que le but est d'éviter trop de promiscuité, nous avons mis en place une plateforme entre les producteurs agricoles et puis les consommateurs, les futurs acheteurs. Donc, histoire de mettre en place voilà, une relation beaucoup plus directe qu'on ne le faisait auparavant. Et ce qui est très intéressant dans les travaux que l'on mène sur le terrain.
Je peux intervenir juste un petit détail. C'est vrai que c'est très important ce que vous êtes en train de nous décrire, parce qu'on a vu récemment des images de distribution de vivres qui donnaient lieu vraiment à des attroupements avec limite des gens qui sont prêts à se piétiner. Alors évidemment, là, les gestes barrières et la distanciation sociale, il n'y a plus rien de tout ça. Donc c'est véritablement pour éviter toutes ces scènes très regrettables que vous avez tout de suite eu l'agilité d'inventer tous ces modes de fonctionnement.
Donc, nous avons des employés qui habitent sur place, qui sont en relation très régulière avec les bénéficiaires. Ils ont donc cette crédibilité pour faire en sorte que notre mode organisationnel diffère. Sur une distribution, par exemple, et ce fut le cas depuis le mois de mars, on explique aux gens pourquoi ça va se passer différemment, pourquoi est-ce qu'il faut ces gestes de distance. Et c'est à partir du moment où on l'explique très simplement et qu'on a cette crédibilité de la part de nos employés, ça se passe très bien. Et ce qui est très intéressant dans les endroits où on travaille, qui sont très différents, c'est se servir aussi bien des technologies, de passer ces informations d'organisation, de nouvelles pratiques d'hygiène, par exemple, au travers des réseaux sociaux ou du téléphone, ou alors dans certains villages, au travers du haut-parleur, on passe en voiture et on explique aux gens comment ça va se passer. Donc les choses sont très diverses. Et pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, là où les foules ont pu devenir compactes et se bousculer pour obtenir cette fameuse distribution, et ça on le rencontre dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est dans les villes, dans les mégapoles, dans les townships, dans les bidonvilles, là où les gens n'ont rien.
Alors, Acted travaille un peu partout dans le monde et il y a un point commun que l'on observe dans tous les pays du Sud, c'est que leurs populations ne peuvent pas s'offrir le luxe du confinement. Du Liban au Nigeria, au Mexique, on ne peut tout bonnement pas se le permettre. À Tripoli, les habitants des quartiers les plus défavorisés crient « Ne nous confinez pas, nourrissez-nous ». À Mexico, les vendeurs de rue, à Lagos, les petits vendeurs à la sauvette, bref, toutes ces personnes qui vivent de l'économie informelle au jour le jour, elles doivent travailler coûte que coûte pour subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, pour toutes ces populations extrêmement vulnérables, les problèmes du quotidien, ce sont la faim, l'accès aux soins, aux produits de première nécessité, au logement. Donc, dans ces conditions, comment convaincre de la priorité du coronavirus et comment prévenir la propagation de l'épidémie?
Oui, c'est évidemment le point le plus difficile. Nous avons eu du mal à être confinés en France parce que ça ne fait pas partie de notre logique de vie quotidienne. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça se passait tout à fait correctement, mais parce qu'on a une autre organisation de la société, une autre organisation de notre économie. Dans beaucoup de pays du Sud, c'est ce que vous décriviez, c'est ce qu'on appelle de l'économie informelle, c'est-à-dire que les gens vivent au jour le jour, vraiment au sens littéral de ces termes-là. Ils se lèvent le matin pour travailler et consommer le soir. S'ils n'ont pas travaillé dans la journée, ils n'ont rien pour le lendemain. Il n'y a pas de filets sociaux, ça ne se passe pas du tout comme ça peut se passer dans beaucoup de pays du Nord. Et donc, vous avez ce problème de confinement, mais si on veut revenir aussi sur un autre sujet en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus, c'est évidemment tout l'aspect sanitaire et médical. En France, on a 32,4 médecins pour 10 000 habitants, en Afrique, il y en a 1 pour 10 000 habitants. En France, on a le débat sur les respirateurs. En Centrafrique, par exemple, il y a 3 respirateurs pour 5 millions d'habitants. Donc, on n'a pas du tout les mêmes normes médicales dans les pays du Nord, où déjà on se plaint de manquer, que dans les pays du Sud. Donc, la réponse médicale, elle va être très difficile. Il y aura besoin de soutien technique, de soutien vraiment technique, et de soutien financier pour apporter le plus possible de matériel, etc. Deuxièmement, pour éviter que l'épidémie ne se propage, en effet, en France et dans beaucoup de pays du Nord, on a décidé le confinement. Dans les pays du Sud, ce n'est tout simplement pas possible. Ça peut être possible, peut-être, oui, en zone rurale, et il y a des pays qui sont encore très, très ruraux, pas comme en France, c'est encore une vraie ruralité dans pas mal des pays dont nous parlons. Mais dans les zones citadines, où l'exode rural a provoqué des mégapoles qui sont tout à fait désorganisées dans leur urbanisation, la création de townships, la création de bidonvilles. Là, évidemment, c'est l'économie informelle qui prévaut, c'est-à-dire qu'au quotidien, les hommes, les femmes, les enfants parfois, se lèvent pour travailler et pour se nourrir. Et donc, vous ne pouvez pas les obliger à rester chez eux, sauf à leur donner à manger, à leur donner de l'argent, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Sans compter évidemment que les modes de vie sont très différents. Dans les pays du Sud, on vit beaucoup plus dehors et on rentre chez soi pour dormir, et donc les logements sont beaucoup plus petits que dans les pays du Nord. Donc, ce confinement est extrêmement difficile à réaliser. Donc, les pays ont tenté de le faire assez tôt. D'ailleurs, il y a pas mal de pays d'Afrique en particulier qui ont essayé de mettre en place un confinement relativement tôt, mais ils se sont retrouvés confrontés à cette réalité que je décrivais. Donc, ils ont cherché à soutenir les populations les plus vulnérables, celles des townships, des bidonvilles, et leur ont fourni du matériel d'hygiène, des kits d'hygiène ou de la nourriture. Mais dans une certaine désorganisation qui a provoqué évidemment des bousculades et des blessés. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est surtout pas comme ça qu'il faut faire. Il faut pouvoir organiser, et je le dis d'autant plus que c'est extrêmement difficile. Il faut être présent, il faut que les organisations, alors qu'elles soient des organisations de la société civile ou les organisations étatiques qui essaient de les mettre en place, il faut qu'elles puissent préparer ces distributions de manière très, très stricte, j'allais dire quasiment très, très, très réglementaire. C'est-à-dire dans 2 jours, distribution pour 200 personnes, et en faire beaucoup. Il ne faut pas en faire une comme ça au cul du camion, comme on a pu avoir ces images, parce qu'à ce moment-là, vous avez les bousculades, etc. Il faut organiser les distributions, il faut en faire beaucoup, 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 pour éviter que les gens ne se concentrent, et il faut étalonner les distributions en expliquant bien ce que les gens auront et que tout le monde aura. Alors, ça peut être un petit peu long dans la distribution, mais que tout le monde aura. Et c'est donc beaucoup plus difficile de le faire dans ces zones citadines où vous avez des millions de personnes que dans les zones rurales. Mais si on n'arrive pas à donner l'équivalent de ces besoins quotidiens que les gens arrivent à obtenir en travaillant, ben on ne pourra pas les confiner.
Alors c'est intéressant parce que vous avez évoqué la population rurale qui, d'une certaine manière, pourrait, elle, s'organiser pour un certain confinement, sauf que très souvent, elle vit loin de tout centre de décision, de tout centre de contrôle, et même elle peut ne pas être au courant finalement. Donc il y a toute cette organisation aussi autour des campagnes de sensibilisation. Et alors, j'avais lu des articles qui montraient qu'il y a aussi tous ces guérisseurs traditionnels, vous savez, ceux qui déploient comme ça la médecine ancestrale avec des racines, des plantes, etc. Et donc je sais que ça peut paraître un petit peu farfelu, mais il semblerait que nombre d'entre eux se mobilisent pour aider à cette campagne de sensibilisation, à faire respecter les gestes barrières. Donc c'est assez intéressant de voir que, encore une fois, il faut s'adapter aux réalités du terrain. Et donc, voilà, ces guérisseurs traditionnels viennent en aide pour les campagnes de prévention qui sont initiées par les États. Vous avez pu constater aussi ce genre de choses, Frédéric ?
Oui, mais plus largement, quand vous voulez travailler sur le terrain, quand vous voulez organiser la mise en place d'un programme, et là on parle de programme d'urgence, hein, avec des gens qui ont des besoins urgents, des besoins vitaux, il faut l'organiser avec les gens du cru, les gens du terrain. On le dit beaucoup en France aujourd'hui où il faut faire appel aux maires, mais c'est la même chose là-bas. Donc vous pouvez avoir une organisation administrative qui marche bien, hein, avec des gouvernorats, des mairies, etc. Mais vous avez aussi des chefs de village qui sont très importants pour la transmission de l'information et l'organisation de la mise en place d'un programme. Ce sont au travers de ces personnalités qu'on arrivera à savoir qui sont les personnes les plus vulnérables de telle ou telle région. Et donc, c'est important de le prendre en compte, ces personnalités. Donc, vous parliez des guérisseurs, mais vous avez aussi les personnalités religieuses qui sont elles aussi très importantes. Alors, en France, on peut ouvrir des yeux ronds en m'entendant, mais dans les pays du Sud, les personnalités religieuses, quelle que soit la foi que l'on pratique, ont un rôle majeur aussi pour faire passer les messages aux populations. Et elles sont extrêmement respectées. Donc, selon les pays, selon les territoires, on a besoin de s'appuyer sur ces strates. Alors, en France, ça sera les mairies, les régions, l'État. Dans d'autres pays, on parlait tout à l'heure de l'Afghanistan, nous nous appuyons sur ce qu'on appelle les mantekas, qui seront des organisations pas tout à fait administratives, mais plutôt des bassins de vie pour faire passer ces messages. Et c'est en connaissant bien les pays, les territoires, les populations qu'on va arriver à mettre en œuvre les programmes de manière très, très adaptée. Et c'est pour ça que c'est très important, pour être bien adapté à la mise en œuvre la plus réussie de votre programme, vous avez besoin de bien connaître la population. Si vous me dites demain, vous allez mettre en place un programme au Zimbabwe, je vous répondrai, ben non, on ne va pas le faire parce qu'on n'est pas enregistré, on ne connaît pas le pays, on ne sera pas en capacité, d'autres le feront très bien.
Alors, face à une déflagration économique dont la douleur est ressentie de manière immédiate, il y a une menace invisible, quasi incertaine, surtout que pour le moment, la virulence du Covid-19 semble plutôt moindre sur tout le continent africain. Donc, comment est-ce qu'on explique cette différence de vitesse de propagation en Afrique par rapport à l'Asie, l'Europe ou l'Amérique ?
D'abord, il y a une temporalité hein, dans la progression du virus. Il a commencé en Chine, il est arrivé en Europe, un petit peu décalé en Amérique. Là, depuis 15 jours, en 15 jours, le virus a touché 50% de plus en Afrique, donc il progresse malheureusement. Et l'OMS dit que le pic pourrait être atteint en juin. Donc malheureusement, on n'est pas encore sur le pic ou sur le plateau, comme on dit en France, du virus, mais on n'en est qu'au début. Donc on va prendre du temps pour l'examiner et ensuite confronter nos propres expériences. C'est pour ça que tout ce que l'on peut faire en amont pour essayer de réduire cette virulence du Covid-19 me paraît très important. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur le fait que l'Afrique, en l'occurrence, semble moins touchée. On a dit qu'il y avait peut-être la chaleur, mais à Singapour, où il fait 35 degrés, la chaleur est là et le virus se relance pour une deuxième vague. On parle aussi, ce qui est vrai, de la jeunesse de la population. L'âge médian en Afrique, c'est 20 ans. 3% de la population a plus de 65 ans. Et on voit chez nous, en France, que ce sont les personnes les plus âgées qui meurent. Donc, il est possible que ça retarde. Je crois aussi qu'il y a un phénomène, c'est que diverses maladies et virus frappent les populations du Sud depuis longtemps. Donc, peut-être qu'il y a une sorte d'immunité. Le paludisme tue beaucoup, on a des épidémies de rougeole régulièrement, etc. On a eu Ebola il y a 5 ou 6 ans sur une partie du continent africain. Donc malheureusement, ce sont des populations qui sont confrontées à des maladies infectieuses qui sont très graves. Et peut-être que les morphologies arrivent à mieux lutter, à fabriquer des anticorps, c'est possible. Mais on n'est sûr de rien. C'est pour ça qu'il est important de se préparer. Bill Gates, qui connaît bien évidemment le continent africain pour avoir une organisation qui travaille sur le plan médical depuis longtemps, disait mi-février, donc il y a très longtemps, qu'on risquait 10 millions de personnes décédées en Afrique. Donc on en est loin, et tant mieux, mais il faut d'ores et déjà s'y préparer. Mais il y a des conséquences, quelle que soit la virulence du Covid-19, il y a des conséquences. C'est la mise en place du confinement, on l'a vu, et là je veux parler de manière plus générale du confinement, la fermeture des frontières, la fermeture des ports, la fermeture des aéroports. Et dans les pays du Sud, je pense en particulier, encore une fois, au continent africain, beaucoup de matières premières essentielles à la nutrition viennent de l'étranger. On consomme beaucoup de riz, il y a un terrien sur deux qui a comme aliment de base le riz, bon, en particulier en Asie, en Afrique, bien sûr. Mais en Afrique, il n'y a pas de riz, ou très très peu. On a des rizières en Inde, en Vietnam, en Thaïlande, et ces pays n'exportent plus. Et donc, le peu de riz que l'on a, soit il est très cher, donc inaccessible, soit on n'a plus de riz. Donc, il faut des aliments de substitution. C'est donc quelque chose qui est très grave pour le quotidien des populations qui n'ont plus accès à ces matières premières nutritionnelles comme elles pouvaient y avoir accès auparavant. Point numéro 2, en termes de fermeture des frontières et puis d'évolution aussi des matières premières, là je parle des matières premières minières, l'effondrement du prix du pétrole met à mal évidemment des économies comme celle du Nigeria, comme celle du Congo-Brazzaville ou d'autres qui comptaient évidemment sur un prix du baril assez haut pour maintenir la solidité de l'économie. Ce n'est pas le cas. Et puis, autre phénomène de la fermeture des frontières, c'est le tourisme. L'Afrique est un continent très, très touristique, de l'Afrique du Nord au Kenya, Tanzanie, en passant par le Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Ce sont des pays qui sont très touristiques et qui, a priori, ne recevront pas de touristes cet été. Donc, vous avez une économie du tourisme On l'avait vu à une époque dramatique en Tunisie, en Égypte, avec les attentats. Cette économie s'était effondrée et là, elle risque de s'effondrer durablement. Donc, malheureusement, en dehors du Covid-19, les conséquences prises par les autres pays des autres continents font qu'il y a des réalités économiques dramatiques aujourd'hui dans l'existence même des peuples et des populations les plus vulnérables dans les pays du Sud.
Alors, vous venez d'y faire allusion. En fait, il y a tous ces dégâts collatéraux, en fait, au Covid-19 et aux décisions qui sont prises à l'international, notamment donc tout ce qui a trait à la fermeture des frontières. Et cette fermeture des frontières, elle a aussi une autre conséquence, et c'est l'ONU qui l'a constaté, ça va avec les restrictions de mouvements plus ou moins sévères imposées par les États. Eh bien, tout ça commence à gripper le travail des ONG sur le terrain. Et du coup, l'ONU a réagi en demandant aux différents gouvernements d'accorder aux travailleurs humanitaires le même statut qu'au personnel de santé, afin de faciliter leur déplacement et aussi leur donner un accès prioritaire au matériel de protection contre le virus. Tout ça paraît assez logique, et pourtant cela se révèle être une opération étonnamment délicate. La psychose gagne facilement et il est de moins en moins rare de voir des humanitaires devenir la cible d'agression parce qu'ils sont considérés par leur déplacement comme des propagateurs du virus, surtout quand il s'agit d'humanitaires étrangers. Est-ce que vous aussi, vous avez pu constater ça et est-ce que vous pensez que ce phénomène pourrait s'aggraver?
Non, là, on est un peu dans la stigmatisation. Je n'irai pas jusque-là. De manière plus globale, il ne faut pas penser que depuis que le Covid-19 existe, les travailleurs humanitaires ont du mal à accéder à certains territoires ou à certaines populations. Nous qui sommes réputés pour travailler dans les pays les plus difficiles, les plus à risque. Nos principaux programmes, c'est la Syrie, c'est le Yémen, c'est la Somalie, c'est le Soudan du Sud, c'est la République centrafricaine, c'est l'Irak, c'est l'Afghanistan, donc ce ne sont pas des pays de tout repos. On accède à la population en se débrouillant, encore une fois, parce que nos travailleurs humanitaires sont des locaux, ils ont cette crédibilité, ils ont cette relation personnelle aux populations qui leur permettent d'accéder bon an mal an, malgré les conflits, malgré les tensions, etc. Donc, nous, on ne se plaint pas. On rencontre évidemment des difficultés, ce fut le cas au Yémen pendant la guerre civile, d'accès aux populations avec des checkpoints qui sont fermés, alors que la semaine dernière, ils étaient ouverts et la semaine suivante, ça sera ouvert. C'est un petit peu, je dirais, le quotidien des humanitaires dans les pays les plus difficiles. Mais on doit s'en débrouiller. C'est pour ça qu'on doit être des logisticiens très, très professionnels. On doit s'organiser, on doit s'en débrouiller parce qu'il y a des gens qui nous attendent. Il y a des gens qui nous font confiance, les bailleurs, et des gens qui nous attendent, les bénéficiaires. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid-19, cette situation est encore plus difficile. C'est pour ça qu'il est très important que l'on puisse faire confiance aux travailleurs humanitaires comme on fait confiance aux travailleurs de la santé. Mais encore une fois, sur le Covid, je considère que nous sommes un maillon essentiel de la réponse. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la réponse n'est pas que médicale, ou elle n'est même pas vraiment médicale dans les pays du Sud, où il y a peu d'hôpitaux, il y a peu de médecins, et c'est donc tout ce travail en amont de distanciation, de relations avec les populations, pour la bonne compréhension de ce virus qui est à faire pour éviter le moment venu, qu'il y ait trop de gens qui se retrouvent confrontés à des centres de santé qui sont frappés de pénurie. Donc ce travail des humanitaires, il est beaucoup plus important pour lutter contre le Covid-19 dans les pays du Sud que, évidemment, dans les pays du Nord, où la réponse médicale, elle est adaptée, même si on se plaint régulièrement qu'on n'a pas suffisamment, mais ça, c'est tout à fait français de se plaindre. Cette réponse des humanitaires, elle est tout à fait en cohérence avec ce que vous indiquiez à l'instant, c'est le fait que nous sommes, nous, des travailleurs qui devons être protégés dans notre devoir de passage pour atteindre les populations. Alors, sommes-nous plus stigmatisés? Je ne sais pas. Nous avons anticipé les choses. Nous avons à peu près, comme je vous le disais, 5% d'employés expatriés. Nous les avons interrogés pour savoir s'ils souhaitaient faire du télétravail de leur pays d'origine, parce qu'on avait bien prévu que cette période de confinement durerait des mois et des mois. Donc certains sont rentrés, d'autres sont restés. Mais ensuite, sur le terrain, nos travailleurs locaux sont confrontés aux difficultés habituelles de la mise en œuvre de programmes d'urgence dans des conditions difficiles. Mais il n'y a pas de stigmatisation. On n'est pas là pour se plaindre. Nous, on n'est pas à plaindre. Ce sont les autres qui sont à plaindre et à soutenir. Ce sont ces personnes vulnérables, ces bénéficiaires qui sont à plaindre et qui sont à soutenir. C'est notre devoir.
Frédéric de Saint-Cernin, il est évident que le continent africain, même s'il paraît éloigné de nos pays, en fait, notre destin est étroitement lié à ce continent. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Emmanuel Macron, lors de sa dernière prise de parole, a plaidé pour un effacement massif de la dette africaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette question autour de la dette des pays africains ?
Oui, c'est une question très importante. La dette avait été levée il y a quelques années. Le pape lui-même est intervenu là-dessus. Je crois qu'il y a un consensus, le moment venu pour lever la dette. Habituellement, on repousse les échéances, on dit bon, un an de plus, et puis à la fin, on annule la dette. Donc ça me paraît quelque chose d'important parce que ça donne une visibilité aux pays d'Afrique. Mais je relativiserai, quand on effaçait les dettes à l'époque, c'était des dettes entre guillemets occidentales, c'était des dettes contractées de la part des pays africains auprès de pays européens ou des Américains. Aujourd'hui, une bonne partie de la dette des pays africains, c'est une dette chinoise. Donc il faut absolument que la Chine soit d'accord. Et je n'ai pas entendu les dirigeants chinois, peut-être qu'ils partageront cet avis, et c'est important de leur demander, parce que si vous décidez d'effacer la dette, il faut évidemment que tous les créanciers soient d'accord. Deuxièmement, je vous donne juste un chiffre, parce qu'on pense toujours que ce sont des sommes considérables. Au Sénégal, la dette représente 3 fois moins que ce qu'apportent chaque année les expatriés sénégalais à leur pays. Donc, il serait beaucoup plus grave pour l'État sénégalais qu'il n'y ait plus un centime qui vienne de l'extérieur que cette affaire de dette. Donc, tout ça pour relativiser. Souvent, les pays du Sud arrivent à améliorer leur situation économique, pas simplement par la dette, pas simplement par le soutien des pays du Nord ou des pays asiatiques, mais aussi par leur communauté expatriée qui envoie une bonne partie de leurs gains à leur famille et à leur pays. C'est important de le rappeler.
C'est vrai, c'est le travail de la diaspora qui soutient effectivement les gens qui sont restés au pays, en fait. Hein. Effectivement, on oublie souvent cette...
Liban, pas simplement l'Afrique. Des pays comme le Liban, c'est quelque chose qui est très important aussi.
Tout à fait. Alors, je veux bien aussi qu'on se concentre un petit peu sur la situation dans les camps de réfugiés. Ces lieux de concentration de population sont sans doute le pire cauchemar pour un scénario épidémique. Et quand je dis cela, je ne parle pas seulement des camps qui se trouvent à des milliers de kilomètres, je parle aussi de l'Europe, en rappelant que pas moins de 36 000 migrants survivent depuis des années sur les îles grecques de la mer Égée dans des conditions d'hygiène désastreuses. Donc je parle des camps surpeuplés de Lesbos, Chios et Samos. Est-ce que nous ne sommes pas là? Alors, pour ces camps donc, de Grèce, mais aussi tous les camps de réfugiés un peu partout dans le monde, est-ce que ce ne sont pas finalement de véritables bombes sanitaires qui risquent de nous exploser au visage ?
Bien sûr, parce qu'il y a des concentrations, il y a des surpopulations dans ces camps de réfugiés qui sont très importantes. Je voudrais quand même dire une ou deux choses de manière globale en ce qui concerne les réfugiés. Les réfugiés, les déplacés. Les déplacés, ce sont des gens qui quittent chez eux pour rester dans le pays. Les réfugiés, ce sont des gens qui quittent de chez eux pour aller dans des pays. Mais en général, ils vont dans les pays voisins. Ils ne vont pas ailleurs, ils ne vont pas en Europe. On a, bon an, mal an, 60-65 millions de personnes qui sont des déplacés et des réfugiés. Donc, ce sont des chiffres considérables. Et en Europe, on en a quelques centaines de milliers, quelles que soient les années. Donc, ce sont des proportions qui sont très faibles par rapport à la globalité. Et donc, si ces gens se déplacent ou se réfugient ailleurs, c'est à cause évidemment des calamités, des catastrophes naturelles qui sont renforcées par le dérèglement climatique, ce sont les conflits armés. C'est donc très important de lutter sur place, sur le terrain, pour essayer d'aider les populations chez elles et d'essayer de résorber tous ces conflits. C'est très important. On a aujourd'hui... On n'en parle pas du tout, mais on a aujourd'hui un drame en Afrique de l'Est qui touche 8 pays d'Afrique de l'Est. Ce sont les criquets pèlerins qui dévorent toutes les récoltes depuis la Somalie jusqu'au Kenya, en passant par le Soudan du Sud, etc. l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Ce sont des pays qui ont beaucoup souffert de mauvaise production ces dernières années. Et cette année où ça pouvait peut-être aller mieux, les criquets sont là. Et on n'en parle pas du tout. Il est donc très important de lutter au quotidien, parce que sinon, vous aurez des gens qui deviendront des déplacés dans les camps que vous indiquez, ou des réfugiés dans les pays d'à côté. Mais donc les déplacés et les réfugiés se trouvent avant tout en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Et donc tout le travail des acteurs humanitaires en l'occurrence, c'est d'organiser cette réponse au coronavirus de manière systématique. Donc on est sur place pour l'organisation d'une vie la moins difficile possible. Donc on manage des camps où il y aura de l'accès à l'eau potable, il y aura de l'assainissement, il y aura de la sécurité alimentaire, il y aura de la protection des enfants, il y aura de l'éducation, il y aura toutes ces choses, il y aura du soutien psychologique aussi. Donc on organise ces camps dans la durée, en espérant que le moment venu, quand les choses se seront pacifiées, les gens pourront rentrer chez eux, parce que c'est quand même leur volonté première. Donc à cela s'ajoute, avec le risque de pandémie, tous ces fameux gestes barrières, toute cette mise en place d'une organisation nouvelle, avec plus de distanciation, avec le lavage des mains, avec de l'eau sur place, et aussi, parce que nous, nos employés ont le masque, toutes ces choses qui nous permettent d'être le plus possible en adéquation avec le risque de pandémie. On travaille donc dans des conditions difficiles. On ajoute évidemment la lutte contre le coronavirus, mais il faut reconnaître aussi qu'on travaille dans des endroits que l'on connaît. On connaît ces habitants des camps, puisqu'on les fréquente au quotidien, on leur apporte des solutions au quotidien. Et donc, encore une fois, cette relation entre l'acteur humanitaire et le bénéficiaire se fait sans aucune limite, sans aucune barrière, sans aucun risque, sans aucune crainte, sans aucun doute. On fonctionne à la confiance, et c'est ça qui est très important. Alors évidemment, quand ils se trouvent en Europe, eux, ils sont parqués de manière différente. Nous, on ne travaille pas en Grèce, mais on avait travaillé à l'époque à Calais. Il faut savoir que la plupart du temps, ce sont des gens qui sont des gens, plutôt des hommes, plutôt des gens jeunes, qui souhaitent passer dans les pays d'Europe pour le moment venu y travailler. Donc ils ne sont pas au bout de leur histoire, ils ne sont pas au bout de leur voyage. Et selon les circonstances, avec ou sans coronavirus, le sujet deviendra à nouveau problématique. On l'a vu au moment de la confrontation en Syrie, Turquie-Syrie, là, il y a quelques mois, où il y a eu encore des mouvements de population réfugiée de la Turquie jusqu'à la frontière grecque, et l'État grec a décidé de fermer ses frontières. Donc le sujet d'aujourd'hui ne sera pas réglé avec le Covid-19. Le Covid-19 doit nous obliger à prendre en compte ces mesures importantes, des mesures d'hygiène et de santé, mais il ne faut pas croire que le sujet que vous indiquiez là, en Grèce, va être réglé, bien évidemment. Mais je pense que plus on est engagé dans les pays qui souffrent, auprès des bénéficiaires les plus vulnérables, sur les territoires qui sont souvent les plus délaissés, plus on fait œuvre de bien public pour ces populations, pour l'équilibre de leur population. Et ces populations sont confrontées à des drames beaucoup plus importants que ce que l'on peut nous rencontrer. Nous, on a des inondations, elles n'ont rien à voir avec les inondations qu'on peut rencontrer au sud, etc., etc., etc. On peut avoir de temps en temps des confrontations, des tensions dans certains endroits de notre pays. Tout ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans les pays du sud. Et donc, il faut qu'on ait une vision très globale, comme je crois les Français en ont conscience au travers du Covid-19. C'est pas en répondant au Covid-19 en France, au sein de l'Hexagone, qu'on règle le problème de la pandémie. L'OMS disait que si on ne s'occupe pas du virus en Afrique, le virus trouvera en Afrique son propre réservoir. Bon, on ne va pas couper l'Afrique du globe. Et donc, il est donc important, quand on a un questionnement, d'avoir une réponse qui est totalement globale, qui est totalement générale. Le nord, le sud, les populations, etc. Et ça rentre évidemment en ligne de compte sur toutes les problématiques liées au développement durable, parce que en Europe, évidemment, on est confronté aux conséquences des catastrophes climatiques à notre petit niveau, mais il faut savoir que dans les pays du Sud, ces catastrophes climatiques sont beaucoup plus virulentes, beaucoup plus importantes. Et si on n'y répond pas, si on ne les aide pas, si on ne les aide pas à anticiper ou à y faire face, évidemment, les gens se retourneront vers les pays du Nord pour dire pourquoi est-ce que vous vivez si bien et pas nous, pourquoi, etc. Il y a maintenant ces interconnexions. On est dans un monde qui est globalisé, on est dans une économie globalisée. On est bien content d'aller voyager au Sud. C'est pas pour quand ça nous arrange fermer les yeux vis-à-vis des pays du Sud. Ça serait trop facile.
Frédéric de Saint-Sernin, vraiment merci pour toutes ces explications parce que grâce à vous, eh bien, on comprend à quel point le travail d'humanitaire sur le terrain, c'est un travail complexe qui demande effectivement beaucoup d'agilité, beaucoup d'observation. Et comme vous venez de le dire, en fait, vous faites face à de multiples défis. Les calamités sont diverses et variées. Le coronavirus, ça vient s'ajouter à ce paysage qui était déjà bien tourmenté.
Mais si
Et
je peux ajouter quelque chose,
bien sûr.
parce que moi je suis fondamentalement quelqu'un d'optimiste, et je pense que dans un océan de difficultés, comme on peut rencontrer, la petite cuillère, elle nous permet d'écoper et donc de réduire la misère, d'aider des personnes qui en ont le plus besoin. Et dans des périodes de coronavirus, des acteurs humanitaires comme chez nous, Acted, on peut être très très innovant, très très inventif. Je vous parlais des masques, on n'était pas fabricant de masques et maintenant on le devient. On est aujourd'hui engagé avec d'autres partenaires sur un programme de respirateurs, un programme low-tech, low-cost, fabriqué en France. Alors il n'est pas encore tout à fait au point, on va lancer une opération de crowdfunding, mais c'est important parce qu'évidemment on dit en France qu'on manque de respirateurs. Ça veut dire qu'il en manquera encore plus ailleurs. Et nous, on ne reste pas simplement une ONG qui est là uniquement pour apporter des besoins très, très nécessaires aux populations, mais on est là pour essayer de trouver des solutions, de les anticiper et de participer avec d'autres communautés. Donc, ce sera des communautés de Fab Lab, des communautés scientifiques, à l'élaboration de nouveaux programmes. C'est très important et pour nous, c'est aussi très créatif. Ça nous
Ouais.
permet de rester tout à fait optimistes.
Extra. Alors, puisque vous nous dites que vous allez lancer une opération de crowdfunding, comment est-ce qu'on peut vous soutenir?
On va lancer l'opération de crowdfunding. Il faudra aller sur le site d'Acted. On donnera quelques explications. Comme je vous le disais,
C'est ça? Acted.org.
acted.org, voilà, acted.org. Acted, comme je le disais au début de notre échange, c'est d'abord une organisation qui tient les financements de ses programmes des grands bailleurs institutionnels internationaux, donc des financements public, et j'insiste sur le fait que ça nous donne beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence, mais aussi on a quelques généreux donateurs, même si on n'est pas connu. Vous le rappeliez qu'on est la deuxième principale ONG française de solidarité internationale. On a aussi quelques généreux donateurs, on a des grandes entreprises privées au travers de leurs fondations qui participent au cofinancement de certains de nos programmes d'accès à l'eau potable, d'assainissement, d'accès à l'énergie, de sécurité alimentaire. Et on a quelques généreux donateurs. Donc, allez sur notre site. Tous les jours, on présente des nouveaux programmes que l'on met en place sur le terrain, des programmes très variés, parce que dans 37 pays, de l'Ukraine à la Somalie, on fait des choses très, très différentes, hein, d'Haïti et Colombie ou en Thaïlande, on fait des choses très différentes. Donc, allez sur notre site, participez, échangez avec nous, c'est vraiment important qu'on puisse avoir cet échange. C'est important pour nous d'avoir cet échange avec le public français. Acted, ça peut paraître un petit peu bizarre comme nom, on ne nous connaît pas, bon voilà, il peut y avoir des interrogations, donc venez sur notre site, ça doit être un site participatif, et plus on a d'échanges avec les gens, mieux c'est. On tient beaucoup au fait que nous sommes une très importante ONG française.
Alors, je pense que l'appel va être entendu et j'espère que ça va permettre à beaucoup plus de gens de vous connaître, de mieux vous connaître. Je ne peux pas résister à une petite question subsidiaire, Frédéric de Saint-Sernin. J'y ai fait allusion au début de cet entretien. Vous étiez pendant longtemps, surtout dans une grande carrière politique. Est-ce que le métier de politique ou celui d'humanitaire, lequel est le plus fatigant, le plus enthousiasmant, le plus passionnant, dites-nous?
Les deux sont passionnants parce que ce sont deux métiers très, très engagés au service des autres. Alors, je sais que le milieu politique n'a pas toujours bonne réputation, que les personnages politiques n'ont pas toujours bonne réputation, mais ça, je dirais, c'est plutôt de manière globale parce que sur le terrain, quand on est élu local, comme ce fut mon cas, ou élu national, Au contraire, les gens comprennent notre engagement et notre travail, surtout que moi j'étais élu d'un milieu rural, le Périgord, qui d'ailleurs me manque beaucoup. Mais, donc ce sont des métiers d'engagement. Aujourd'hui, je préfère être humanitaire qu'acteur public, parce que confronté au débat sur nos connaissances en matière scientifique ou nos non-connaissances en matière scientifique en ce qui concerne ce virus. Alors, on nous dit que gouverner, c'est prévoir, oui, mais ce n'est pas facile de prévoir quand même les grands sachants ne savent pas. Donc, c'est prévoir, c'est anticiper. Pas facile. En tout cas, c'est décider. Et on a besoin de décider. Et ce que j'attends des acteurs publics, c'est qu'ils décident. Et c'est ça qui, pour moi, est très important. Décider.
Merci beaucoup Frédéric de Saint-Sernin de nous avoir accordé.
Merci à vous.
Tiens, c'était De l'intérieur avec Frédéric de Saint-Sernin. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous.